Europa Voice numéro 50 déjà, et comme chaque émission, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
50 des noms, ça va assez vite en fait.
Ah oui, on va pas le temps passer.
C'est clair. Allez, cette fois-ci, on va parler bien sûr de l'Europe, mais on va parler des crises européennes. On va pas faire un focus trop, on va pas trop s'attarder sur forcément le Covid-19 ou le coronavirus qui nous attelle en ce moment, mais ça nous a amené à réfléchir sur cette histoire d'une Europe qui est quand même née d'un chaos. Et qui a quand même globalement, sur les 50-60 dernières années, été très chaotique.
Oui, tout à fait, Christophe. Alors, pour partager avec nos auditeurs, effectivement, aujourd'hui, l'actualité est noyée sous le Covid-19. Et puis, on est en plein dedans, on n'a pas forcément de recul. On n'a pas envie de jouer les éditorialistes professionnels ici à SBS et Europa Voice. Donc, on s'est dit, on allait réfléchir un petit peu à cette Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Europe, quand elle est face à des crises? Et quel est même le rapport de l'Europe aux crises elles-mêmes? Et j'aimerais vous citer d'abord, pour introduire et commencer cette émission, une phrase qu'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires en 1976. Il disait « L'Europe, je le cite, se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » C'est intéressant parce que on est en plein dedans, Christophe.
Ouais.
On est en train de tester la crédibilité de l'Europe, alors pas forcément et seulement face au Covid-19, mais la crédibilité de l'Europe face aux dernières crises que cette dernière a traversées les 15 dernières années et même depuis le début de sa construction.
Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on parlait de la crise du Brexit, c'était presque le bon temps en fait. C'était une crise plutôt agréable comparé à ce qui arrive ou ce qui peut arriver encore pire en Europe. Si on revient en arrière, on a bien dit que l'Europe s'est créée à partir d'un chaos. C'est bien entendu la réflexion que le continent européen a eue après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, tout à fait, Christophe. Alors, évidemment,
la Seconde Guerre mondiale, j'aurais dit.
La Seconde Guerre mondiale, non, mais alors effectivement, alors l'idée d'Europe, elle est un peu plus vieille que ça. Erasme en parlait, Victor Hugo en parlait, mais elle s'est matérialisée véritablement. Effectivement, elle s'est construite sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale et sur la politique du plus jamais ça. Et pour le plus jamais ça, il faut s'allier. Il faut le rappeler pour nos auditeurs. D'abord, il faut créer une contingence, il faut créer une nécessité économique entre les pays, et c'est ce qui avait donné lieu à la création de la communauté européenne de charbon et d'acier. Donc effectivement, l'Union européenne aujourd'hui, mais l'Europe, elle s'est d'abord créée sur une crise majeure qui était la Seconde Guerre mondiale.
Quand on regarde un peu en arrière on peut presque dire l'Europe doit apprendre de ces crises. Jean Monnet l'a dit très bien dans la phrase que vous avez citée. Aujourd'hui, ça peut apporter quoi dans la réaction européenne? Parce que si on prend juste, on transpose aujourd'hui ce qui se passe avec cette crise du coronavirus ou du Covid-19, on se rend compte que, eh bien, pour beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas sur la santé, par exemple, les États sont laissés, ils se débrouillent tout seuls.
Oui, alors Christophe, cette remarque, elle appelle deux choses. D'abord, qu'effectivement, ces dernières années en Europe, c'est véritablement le temps des crises, et on se demande finalement si l'Europe, d'une certaine façon, est l'échelon pertinent. C'est vrai qu'il y a une remise en cause. Pendant des dizaines d'années, l'Europe, elle s'est construite. Hein. On a dit, il y a toujours eu ce débat, sempiternel débat entre approfondissement et élargissement. C'est-à-dire qu'au début, on a donné plus de compétences à un nombre restreint de pays. Et puis, les temps des élargissements aux pays d'abord de l'Europe du Sud, puis aux pays de l'Europe de l'Est au début des années 2000, a fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec une Europe à 28 pays amputés d'un, à 27 pays. Mais depuis ces 15 dernières années, on assiste aussi en Europe véritablement à un enchaînement de crises. Alors juste pour donner une vision un petit peu synthétique à nos auditeurs, si on repart juste depuis 2005, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? D'abord, on a eu une crise institutionnelle en Europe. On se rappelle le rejet du traité constitutionnel qui avait donné lieu à l'acception assez chaotique du traité de Lisbonne. Ça, c'était en 2005. Donc, d'abord, une crise institutionnelle en 2005. Quelques mois plus tard, une crise financière en Europe où on avait mis énormément de temps à réagir et à sauver notamment le soldat grec, mais la crise financière, elle avait touché des pays aussi comme Malte, comme Chypre, etc.
L'Islande, etc.
L'Islande, exactement. Donc après une crise institutionnelle, une crise financière, puis est venue au moment des interventions en Libye, et en Afrique du Nord, une crise migratoire. On avait vu l'Europe incapable de réagir à cet afflux migratoire, et l'Italie, déjà l'Italie à l'époque, Christophe, qui avait cette impression d'être seule sur le paquebot européen, qui recevait ses migrants à Lampedusa et qui demandait, qui appelait à l'aide l'Européenne, donc, l'Union européenne. Donc crise institutionnelle, crise financière, crise migratoire, et puis le dernier né, mais qui paraît déjà très ancien, c'est la crise politique autour du Brexit. Donc en l'espace de 15 ans, on en arrive maintenant à une cinquième crise, qui est une crise sanitaire. Et donc on peut se demander effectivement, est-ce que l'Europe, elle apprend de ces crises ? Et surtout, est-ce que l'Europe est l'échelon pertinent encore pour faire face à ces crises ?
Absolument. Alors, vous faites un bon point par rapport à l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie a fait face à une crise de santé publique sans précédent pour au échelon de l'Europe, presque au niveau mondial. L'Italie a dépassé le nombre de cas de Covid-19, de cas chinois. C'est vraiment un bon point en pensant que l'Italie se retrouve tout seul. Quel sentiment vous pensez en Italie ? Parce qu'il n'y avait pas forcément un sentiment très très fort européen quand il y a eu les crises humanitaires avec l'île de Lampedusa. Maintenant, je serais tenté de dire, on en rajoute une couche. Les Italiens ont le droit de se sentir un peu seuls dans ces crises.
Bah Christophe, c'est pas pour rien que ces crises, il faut le dire pour nos auditeurs, ces différentes crises qui ont traversé l'Europe ces dernières années, elles se sont inscrites aussi dans des contextes politiques nationaux où on a vu, et on l'avait traité dans une précédente émission d'Europa House, une montée des extrémismes, une montée de l'extrême droite dans différents pays européens, dont l'Italie fait partie, avec notamment la Ligue Matteo Salvini. Donc effectivement, ça rajoute encore un peu de moulin dans l'eau populiste qui émergera ou qui sera la conséquence de ces crises. Et il est évident que les partis d'extrême droite ou les partis nationalistes ou les partis indépendantistes joueront de cette non-réactivité pour l'instant, en tout cas de cette non-réponse apportée par l'Europe comme une entité globale face à la crise du Covid-19.
Si on extrapole un petit peu, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de conséquences ? Quels sont les risques pour l'Europe ? On a vu par exemple Schengen qui a pratiquement explosé. Même si l'Europe a fermé les frontières au niveau de Schengen ou au sein de Schengen, les pays eux-mêmes se sont rétractés. Pour un bien ou pour un mal, c'est pas le débat, mais on sent bien que par exemple l'Europe via ses institutions n'a pas pu avoir cette réponse. Donc aujourd'hui, quelles à votre avis pourraient être les conséquences de tout ça pour 2021, 2022, etc.
Alors moi je veux voir, Christophe, toujours le bon côté positif des choses. Je crois que de la même manière que le sauvetage de la Grèce avec le rôle de la BCE, avec le mécanisme européen de stabilité, avait montré qu'il fallait une intégration fiscale plus importante, une coopération plus importante entre les États membres. Je crois que sur les questions de santé publique, c'est ce que, en tout cas j'espère, arrivera pour l'Union européenne dans les prochaines années. C'est-à-dire, on réfléchira plus à des solutions communes, ensemble par rapport à la santé publique en Europe, parce que c'est pas le premier avertissement, Christophe, pour l'Europe. Alors, on avait déjà eu la crise de la vache folle, on avait eu la crise de la dioxine, on avait eu déjà plusieurs signaux faibles.
Le H5N1, le SARS qui avait été géré exactement. D'une façon différente dans chaque pays.
Donc effectivement, moi je crois que, j'allais dire c'est presque de la destruction créatrice schumpeterienne, mais je crois que de ce qui est en train de se détruire, de se détricoter un petit peu en Europe en ce moment, va pouvoir naître quelque chose de positif par rapport à une réflexion, par rapport à une meilleure intégration sur les politiques de santé publique en Europe. Ça c'est le bon côté des choses que j'ai envie de voir. Le mauvais côté des choses, Christophe, c'est effectivement l'idée européenne en soi. Qu'est-ce qui va ressortir dans les États membres qui vont être les plus durement touchés ? Je pense à l'Italie, mais peut-être même aussi à la France. Qu'est-ce qui va ressortir du rapport de la population européenne, de chaque État, par rapport à l'idée européenne ? Est-ce que il y aura encore plus de défiance par rapport au mastodonte bruxellien, par rapport à la bureaucratie européenne, ou est-ce que au contraire, on ira chercher plus de réponses du côté de l'Europe ? Voilà, je pense que c'est ça en fait l'enjeu maintenant pour l'Europe aussi. C'est pas simplement de gérer cette crise qui est finalement, encore une fois, en 15 ans, qui est simplement une crise qui a suivi d'autres crises, alors effectivement moins importantes, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise-là, Christophe.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de se mettre du côté du 10 Downing Street à Londres, qui, on le sait, on l'a parlé, débattu, on est au courant du Brexit, mais aujourd'hui, on doit quand même sacrément, même si on ne le dit pas ouvertement, se poser des questions aussi sur la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe, parce que c'est vrai qu'on voit cette Europe qui n'est pas du tout unie, et on voit le Royaume-Uni qui est aussi de l'autre côté. Donc, est-ce que vous croyez que Boris Johnson se dit un mal pour un bien aujourd'hui qu'on soit parti ? La position de la Grande-Bretagne là-dedans.
La position de la Grande-Bretagne, Christophe, elle est doublement difficile. Elle est d'abord difficile parce que effectivement, elle est dans cette phase encore de construction de Brexit. Hein. On est, rappelons-le, hein, même si ça fait quelques émissions qu'on n'a pas traité de Brexit, on est encore dans cette année de transition. Énormément de choses sont à négocier, notamment sur la mobilité des personnes, des biens, les frontières. Donc,
mais justement, le goalpost, comme on dit en anglais, devrait sûrement être bougé parce que la date limite de la fin de l'année, s'il y a une crise qui est en train de se générer comme on la voit aujourd'hui en Europe et potentiellement en Grande-Bretagne, ça va être impossible d'atteindre les objectifs qui étaient mis en œuvre à la fin de l'année, enfin fin 2020.
Oui, bien sûr, tout à fait, Christophe, mais je crois qu'aussi ça amène cette réflexion sur quelle est la place de la relation de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne, parce qu'il faut le rappeler, hein, Donald Trump a bien précisé dans son travel ban et dans ses limitations de déplacement qu'il mettait le partenaire briton en dehors des autres pays de...
Certains pensent qu'il a deux... vous avez vu ça, non ? Il a deux centres de vacances, deux hôtels de très haut niveau dans le monde, enfin en Europe en tout cas. Ils sont en Grande-Bretagne et en Irlande. C'est quand même très intéressant comme attitude.
Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça raconte aussi ? Ça raconte que les centres de décision et les alliances, elles sont en train aussi de se déplacer avec cette crise du Covid-19 et avec les précédentes crises en Europe. Là, la question aussi qui se pose, Christophe, et c'est pas simplement une question de la Grande-Bretagne par rapport à l'allié américain, de la Grande-Bretagne par rapport à l'Europe, c'est quoi la prochaine étape de la globalisation ? Est-ce qu'on va assister maintenant à une globalisation que je pourrais qualifier de re-régionalisée ? C'est-à-dire qu'on va, on se rend compte qu'on est complètement dépendant de la Chine, hein, on l'a vu, on va pas redébattre de ça, mais par rapport à la production de masques, de gel, de matériel médical, hein, juste pour dire aussi, et je suis désolé, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais cette image, elle était quand même incroyable, cette image de l'avion chinois sur le tarmac de l'aéroport de Rome, où la troisième puissance, Christophe, de l'Union européenne, la troisième puissance économique de l'Union européenne, a eu besoin de faire appel à la Chine pour être livrée en matériel médical. Elle est incroyable, cette image,
et des experts.
Christophe. Et c'est incroyable. Et donc, ça va aussi amener ça comme réflexion, cette crise. Ça va amener, est-ce qu'on veut re-régionaliser la globalisation et donc quel va être le rôle de l'Union européenne et encore plus important que les États membres, comment l'Union européenne va réussir à se positionner pour peser face à la Chine, pour peser face à l'Inde, pour peser face aux États-Unis dans ces contextes de plus en plus isolationnistes.
Et au niveau franco-français, sans faire un point tant que tel sur la crise, mais est-ce que les pays commencent un petit peu à serrer les coudes? On voit bien, hein, c'est le côté latin pour l'instant qui est très touché de l'Europe, hein, en chiffres, l'Italie, l'Espagne et la France. Est-ce qu'il commence à y avoir, à votre avis, des discussions et des relations entre ces trois pays pour peut-être progresser dans le même sens?
Alors, il y a deux niveaux, Christophe. Alors, au niveau européen, d'abord, on l'a vu, hein, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont quand même réagi assez rapidement. Et je ne suis pas là pour les dédouaner, Christophe, mais c'est vrai qu'ils ont réagi avec les moyens qu'ils ont, encore une fois, par rapport aux politiques de santé publique, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Après, au niveau des États, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est aussi la seule crise, finalement, depuis quelques années, qui remet véritablement en cause les principes mêmes de libre-échange et les principes même de circulation. Parce que si on fait un parallèle avec la crise migratoire, la question elle n'est pas de savoir si c'était à l'Italie de gérer seule ou pas l'afflux de migrants à Lampedusa. La question elle est de savoir, puisqu'on a une Europe où on a un espace Schengen, où on a aboli les frontières, c'est comment est-ce que, quand ces migrants arrivent à Lampedusa, comment on est capable de les répartir? Donc c'était une question de modalité de la gestion d'une crise. Là, le fait de devoir fermer des frontières, le fait de devoir s'isoler remet en cause même les fondements, les principes fondateurs, presque les valeurs de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est très compliqué de dessiner une réponse européenne, parce que la réponse européenne, elle ne peut être qu'en contre-indication, qu'en opposition avec les valeurs fondamentales et les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc au niveau des pays, pour revenir à votre question, pour l'instant, on est encore beaucoup dans du chacun chez soi, parce qu'on est aussi au début de la gestion de crise et que c'est compliqué pour l'instant pour chaque pays de trouver une solution de sortie. Donc pour l'instant, chaque dirigeant européen adopte ces modalités de lockdown, de containment, de confinement, comme on dit en français. Et on ne voit pas encore vraiment l'esquisse d'une réponse supranationale.
Et dernière question, un avis clair et net. Est-ce que l'Europe sortira grandie ou pas de cette crise ?
Je pense que l'Europe ne s'en sortira que si elle s'en sort grandie justement par cette crise. Que justement si elle arrive à inclure ces problématiques de santé publique, parce que pour l'instant, on est plus dans de la régulation médicamenteuse, dans les problèmes réglementaires quand on parle de santé en Europe, hein, c'est les questions des normes, etc. Mais on n'est pas du tout dans une prise en charge globale des problématiques de santé publique, de crise sanitaire. Donc je pense que c'est pas que l'Europe s'en sortira grandie, c'est que l'Europe ne s'en sortira que grandie parce qu'elle sera capable de prendre en compte au niveau européen ces questions de gestion de santé publique et ces gestions de crise sanitaire.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathalie.
Merci, Christophe.